Vous avez vu l'intitulé de cet exposé, Les trois naissances de l'école de Chicago. Il y a une quinzaine d'années, dans Department and Discipline, Andrew Abbott, dont nous avons déjà parlé il y a quelques instants, relevait l'existence d'une industrie florissante qu'il appelait Manufacturing Chicago. Alors, tout commentaire sur l'école de Chicago ajoute inexorablement au flux de production ou de surproduction d'ailleurs de cette industrie. Et l'exposé que je vais faire maintenant n'échappe pas à ce destin, ça va de soi. Même si je commence par l'assertion un peu brutale, l'école de Chicago n'existe pas, ou plutôt, pour rester dans le style intellectuel de Abbott, l'école de Chicago n'existe que parce que l'on en parle. Alors, un des paradoxes, me semble-t-il, des commentaires français sur le sujet et leur chronologie. Le lever de rideau, ce fut la charge de Manuel Castells, Sociologie du travail, 1968, contre la dite école. Mais la pièce ne commença, je crois, vraiment chez nous qu'après la publication d'une anthologie et le lancement du néologisme écologie urbaine par Yves Grafmeyer et Isaac Joseph en 1979. Donc, vous voyez la chronologie, les Français découvraient la dite école à peu près au moment où une partie substantielle de l'historiographie européenne et nord-américaine prenait un tour, disons, révisionniste, qui tendait à mettre en cause la consistance même de l'objet. À commencer par une importante étude du Britannique Lee Harvey, publiée en 1987, « The Myth of the Chicago School ». Cet ouvrage, dont quelques autres aussi, établissait un fait dont je partirai. Excusez-moi d'être un peu brutal sur ce point. L'étiquette Chicago School of Sociology est une création rétrospective et recouvre, selon les usages qui en sont faits, des réalités étonnamment, étonnamment différentes. Alors, c'est à partir de là que j'ai commencé ma propre enquête sur la genèse du dit étiquetage. Et je tiens à préciser qu'il ne s'agissait pas pour moi de dénoncer un mythe. Alors, sans doute, la plupart des constructions observables dans ce champ relèvent-elles du registre du mythe, mais ce n'est pas dans mon propos de mesurer la validité des différentes définitions de l'école à l'aune d'une lecture plus juste des textes ou des choses de ce genre. Je ne souhaite pas rétablir la vérité. Je me propose simplement de contribuer à en écrire l'histoire, c'est-à-dire de tenter de comprendre dans quelle configuration d'acteurs, d'enjeux, d'actions. L'école de Chicago, alors je vais souvent m'agiter avec ces gestes-là, vous voyez bien ce que ça veut dire. Cette école donc est née et s'est vue assigner des contenus divers. Donc plutôt que de contester l'existence de l'école de Chicago, ce qui est un peu du temps perdu, il s'agirait d'admettre qu'elle existe puisqu'on le dit et d'examiner ce qu'on en dit et à quoi sert de le dire. En d'autres termes, comme disait Charlie tout à l'heure, ça m'est complètement égal. Alors, pas tout à fait. J'espère qu'une leçon, s'il doit y en avoir une de mon exposé aujourd'hui, vous fera ressortir de cette pièce. Chaque fois que vous énoncerez le syntagme École de Chicago, vous ferez ça. C'est tout ce que je vous demande à la sortie. D'accord? Voilà. En tout cas, l'instabilité de l'objet rend difficile une définition provisoire préalable qui aiderait quand même à l'exposer. Dans la période où l'étiquetage apparaît néanmoins, bon, il tend à réunir des professeurs et des élèves, des thèmes, des concepts, des enquêtes, des publications, pas si nombreuses que ça, tous liés au département de sociologie de l'Université de Chicago à l'époque de son âge d'or. Alors, il y a aussi une discussion sur quel est cet âge d'or, mais disons en gros 1920-1932. Pour reprendre la chronologie proposée par la première sociologue ayant écrit une histoire de l'école de Chicago, Robert Ferris, le fils du patron du département dans les années 20, publié en 1970. Mais enfin, les variantes définitionnelles sont très nombreuses, qu'il s'agisse des personnes à inclure ou de la période à prendre en compte. Alors, ce que vous avez là sous les yeux, on va le retrouver tout au long de l'exposé, c'est une sorte de carte qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui vous donne une liste, me semble-t-il, à peu près, presque exhaustive, des candidats, en quelque sorte, au recrutement dans la dite école. Vous avez des noms qui sont vaguement, à peu près organisés chronologiquement du haut vers le bas, et de gauche à droite, à gauche, on est au cœur du département de sociologie and anthropology, jusqu'en 29, et vers la droite, et notamment vers le haut, on est plutôt dans le département de philosophie et de psychologie de l'université. Ce qui caractérise chacun des noms, c'est l'année du PhD et l'université où il a été soutenu, CH désignant l'Université de Chicago. Et puis enfin, les dates qu'on trouve parfois à droite de cette première date, le PhD, ce sont les dates où la personne a été repérée comme enseignant à l'Université de Chicago. Voilà, en gros, voilà la topographie d'ensemble. Alors, question maintenant de variantes définitionnelles. Au sein du département de sociologie, donc sur la gauche, en gros, de la carte, faut-il considérer seulement le noyau formé par Robert Park, Ernest Burgess et leurs élèves, hein? Park, Burgess, leurs élèves de la première génération. Ou faut-il aussi adjoindre William Thomas, qui est quelque part là aussi, bien qu'il ait quitté Chicago en 19, pour des raisons que nous n'avons pas le temps d'approfondir, mais qui sont très intéressantes. Faut-il inclure aussi les autres professeurs, malgré leurs profondes différences avec Park et Burgess, et notamment Ferris, Ellsworth Ferris. Il me faudrait quelque chose pour pointer sur la carte, mais bon. Il faudrait que vous creviez les yeux et que vous le trouviez, un peu vers la droite là-bas. Donc plutôt proche de la psychologie sociale et de George Mead, ou bien William Ogburn, qui a été importé de Colombie en 1927, armé des méthodes statistiques jusque-là ignorées à Chicago. Faut-il sortir du département de sociologie, aller vers la droite et vers le haut, inclure Mead lui-même, bien qu'il n'apparte pas donc au département de sociologie, voire éventuellement John Dewey, qui enseigna dans le département de philosophie et y fit venir Mead par la suite. Et que faire de Robert Redfield, gendre de Park, mais attaché au département d'anthropologie qui s'autonomise en 1929. On peut aussi faire varier les bornes chronologiques, partir vers le haut, partir vers le bas, vers le haut. Faut-il considérer comme faisant partie de l'école de Chicago la génération des fondateurs, notamment Albion Small? Et puis, qu'en est-il de la troisième génération, celle qui commence à enseigner dans les années 20? Formidable, merci beaucoup. Encore faut-il que je sache utiliser cette chose. Sur le bouton vert. Ouais. La troisième génération, donc, qui commence à enseigner dans les années 30, ici, et notamment Worth, ou bien Hughes, qui commence à enseigner en 38, et du protégé de Faris, Herbert Bloomer, qui commence à enseigner en 31. Et on voit bien que selon, pardonnez-moi ce parcours au pas de charge, mais c'est pour montrer que selon la réponse que l'on donne à ces questions, la nature même de l'objet change très très profondément. Donc, bonne enquête à porter sur, non pas l'âge d'or de Chicago, mais sur les décennies suivantes, parce que c'est dans les décennies suivantes, précisément, qu'une réponse est donnée aux questions de la définition. Alors, en tout cas, première certitude, deux observations préalables, si vous voulez. La première, dans les années 20 et 30, les sociologues de département ne s'affichaient pas comme formant une école, et ils n'étaient pas non plus qualifiés de cette façon par d'autres. On a Hughes que cite... Ruth Cavan, beaucoup plus tard, qui nous le dit en tout cas, et puis Howard S. Becker qui nous dit à peu près la même chose à propos de Worth. Je vous laisse lire les citations. Quant à la poignée d'occurrences Chicago School attestée dans les années 20 et 30, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Chacune prend un sens distinct selon la situation singulière de l'énonciation. Elles sont instables dans leur contenu et surtout isolées et fugitives. Deuxième observation, à la fin des années 60, le paysage avait entièrement changé. Aux États-Unis d'abord, à l'étranger ensuite, l'école de Chicago commençait à être couramment mentionnée dans les descriptions de la discipline et de son histoire. Donc un objet était apparu. Mais ce n'était pas pour durer. Le syntagme est toujours là parmi nous, mais l'objet a connu depuis une série de métamorphoses. Alors, dans mon enquête, j'ai très vite rencontré Abbott et Graciano, qui est un élève de Abbott, qui fournissait une première réponse que je vais rapidement reprendre. Au terme d'une analyse interactionniste que je trouve assez superbe, des minutes d'un séminaire du département tenu au cours de l'année 51-52, il conclut que l'école de Chicago est née, je cite en français, dans la salle 106 du Social Science Building le soir du 28 mai 1952. Le département, à ce moment-là, est dans une crise profonde. Les derniers professeurs de la génération des années 20 étaient sur le départ et les recrues récentes, peu nombreuses, souvent formées localement, s'en allaient très rapidement ailleurs. Et au sein du département, on est donc au tournant des années 50, les factions se déchiraient. La ligne de fracture la plus apparente opposant quantitativistes et qualitativistes. Et 1952, c'est l'année de l'hémorragie. Burgess et Hogburn refusent de retarder leur retraite. Worth meurt brusquement. Et Bloomer s'en va pour Berkeley. Alors que la sociologie connaissait à ce moment précis une croissance fulgurante dans les autres universités, à Chicago, les effectifs étudiants augmentaient peu et de formidables concurrents avaient pris leur essor. Donc Talcott Parsons, qui promouvait la théorie sociale, the grand theory, à Harvard, et puis Paul Lazarsfeld, qui, avec Robert Merton, promouvait la sociologie quantitative formalisée, disons, à Columbia University à New York. Et le danger se rapprochait. Imaginez-vous qu'en 1950, le président de l'Université de Chicago, qui avait à ce moment-là placé le département quasiment sous tutelle, propose à Merton et à Lazarsfeld de venir à Chicago. Voilà. Sans succès, autrement on ne serait pas là pour parler de l'école de Chicago, évidemment. Alors c'est dans cette conjoncture qu'un nouveau président exige du département en 51 qu'il engage une réflexion collective sur son avenir. Qu'est-ce que vous allez faire, chers collègues ? Et ainsi, observe Abbott, et je trouve ça très intéressant, ce fut l'administration qui, la première, regarda Chicago comme quelque chose de spécifique et de daté. « Donnez-nous du Chicago », demande le président. D'où un séminaire d'auto-redéfinition, en quelque sorte, que les membres du département tinrent tout au long de l'année 51-52 et dont on a gardé les archives, les minutes. Alors, la consigne était très claire. Avant de savoir à qui allait revenir l'héritage entre les factions qui se déchiraient le département, il fallait d'abord déterminer quel était cet héritage. Et c'est dans les interactions, dans des interactions dont l'issue n'était en rien fixée à l'avance, qu'apparut The Chicago School of Sociology. C'est la première des trois naissances. Alors voici l'échange crucial que donc Abbott nous restitue dans Department and Discipline. Alors, Bloomer, interrogé par le président de séance, qui est Burgess, dit, je vais peut-être vous lire ça plutôt en français. Bon, je crois que ce qui est éminent dans ce département depuis à peu près un demi-siècle est venu du fait que les dirigeants de ce département étaient préoccupés d'essayer de développer non pas un assemblage de faits discontinus, mais quelque chose qui soit de la nature d'un corps cohérent de connaissances de la vie de groupe humaine en tant que tel. Voilà, donc une déclaration, il y a quelque chose comme un corps cohérent de connaissances. Et Burgess s'adresse à un plus jeune, Rees. Bloomer a 52 ans à ce moment-là. Il a été recruté en 31. Et il est promoteur de la social psychology au sein du département. Il est sur le point de partir à Berkeley. Burgess, qui lui, bien sûr, est bien plus âgé, il a 66 ans. Il a été recruté en 19 et il est chairman du département depuis 47 et sur le point de prendre sa retraite. Donc il préside la réunion et il sollicite l'opinion du jeune Albert Rees, 30 ans, recruté en 47 et sur le point de partir, pour Vanderbilt, qui répondit. Je me trouve dans la position très souvent d'aller avec le courant, ce que font souvent les jeunes gens, prétend-on. Et ça ne va pas tout à fait avec la vue de la société qui caractérise, alors ça c'est le moment crucial de l'échange, « What has come to be known as the Chicago School of Sociology » et que j'ai appris en tant qu'étudiant dans ce département. Et Burgess s'adresse à Rees un peu fâché et lui dit « Why did you deviate ?» et Bloomer se tourne vers le président de séance et lui dit « Why did you ?» Donc, c'est le conflit entre Burgess, qui était passé du côté des quantitativistes, des sociologues statisticiens, et Bloomer, qui avait fait l'option de la psychologie sociale, qui s'exprime entre les patrons. Mais le plus important, me semble-t-il, et c'est en tout cas là-dessus que Abbott insiste, il y a désormais une vision de la société qui constitue un héritage commun, puisqu'on peut soit le récuser, soit le trahir, et c'est ce quelque chose qui... What has come to be known at the Chicago School of Sociology. Donc, ses contours, son contenu n'était pas du tout aisé à dessiner. Qui aurait la légitimité à le faire, justement? Bloomer, le psychologue social, Worth et les partisans du fieldwork, ou bien Burgess, qui était allié, disons, aux écologistes statisticiens. Donc, la réponse qui devait être donnée immédiatement au président de l'université ne pouvait être que minimale pour pouvoir être consensuelle, disons. Et tous étaient d'accord pour récuser les théories générales et abstraites, c'est-à-dire Harvard et Parsons, mais au-delà, les divergences étaient sans nombre. Et faute d'une formule qui fasse l'accord entre ces différentes factions intellectuelles, l'accord fut obtenu en réorganisant l'ensemble du passé autour de la figure de Park, dont l'œuvre était appropriable par chacun à sa manière. Alors, ce que j'ai voulu faire, au fond, c'est, à partir de cette première découverte d'Abbott, c'est de poursuivre, au-delà de 1952, l'enquête qu'il avait commencée en étudiant les changements qui ont affecté l'étiquette par la suite. Bon, la méthode que j'ai retenue, je suis très rapide, c'est un travail bibliométrique. La bibliométrie, c'est très très mauvais pour évaluer les chercheurs, mais c'est très très bon pour faire de l'histoire des sciences. Donc, un travail bibliométrique appuyé sur un document qui fut le produit même, d'ailleurs, de l'histoire que je voulais reconstituer, une bibliographie systématique élaborée dans le cadre du séminaire de Janowitz, qui sera le futur patron du département, et publiée par Lester Kurtz en 1984. Et c'est cette partie de mon enquête s'arrête donc nécessairement à la fin de ce corpus, en quelque sorte. Bon, par ailleurs, j'ai choisi de ne m'intéresser qu'aux constructions de l'école de Chicago observables localement aux États-Unis. Les voyages du label sont un sujet splendide, bien sûr, qui nous concerne au premier chef, mais qui demanderait d'élaborer d'autres corpus, et ça, j'ai pas eu le temps, et il y a un moment, vous avez tout las. Alors, pour revenir à 1952, ce qui subsistait alors de l'héritage commun était des plus réduits. Dans les années 40, il n'y avait guère qu'un ou deux auteurs de Chicago qui émergeaient comme sujets de débats généraux de la sociologie. Thomas, d'abord, et puis Park ensuite. Surtout commentés l'un et l'autre, d'ailleurs, à l'occasion de leur décès, en 48 et en 44, respectivement. Aucune mention d'une sociologie de Chicago dans les ouvrages de synthèse ou les états de l'art, que j'ai assez systématiquement dépouillés, et même dans le bilan que Worth fait sur la sociologie américaine en 1947. Et cette absence de coalescence, en quelque sorte, d'un ensemble Chicago, tenait, je pense, notamment au fait que les débats où les sociologues du département se trouvaient impliqués alors et discutaient, présentaient une tendance très marquée à la spécialisation. Bon, deux domaines étaient au premier plan. Alors là, c'est le genre d'histogramme qu'on peut faire à partir d'un petit peu de bibliométrie, voyez-vous. Vous avez un premier domaine qui est l'écologie humaine, avec des citations denses dans les années 40, mais aussi dans les années 50. C'est l'âge du... Je ne rentre pas dans les détails. Si vous voulez poser des questions sur la construction des données, on y viendra dans la discussion, j'espère. Et avec une chute à partir des années 70. L'ère du planning est clos peut-être aux États-Unis. Et surtout, l'autre domaine spécialisé, c'est la criminologie, de 1950 au début des années 70 surtout. Et bien sûr, la constellation d'auteurs concernés par Human Ecology et par Crime and Delinquency n'est pas la même. Donc, j'ai placé en rouge les premiers, Human Ecology, en bleu les seconds. On voit déjà que la carte commence à s'animer et on voit des morceaux des candidats possibles sélectionnés selon l'étiquette là que l'on veut adopter. Alors, on voit bien que la décision des rescapés des années 20 et 30, qu'il avait existé une école de Chicago qu'il fallait tenter d'en sauvegarder l'héritage, ne manquait pas d'audace. En 51-52. Et puisque le plus petit commun dénominateur était Park, ce fut le moment que choisit Hughes, justement, pour le protéger de l'oubli, en publiant, avec l'aide de Redfield et de Worth, trois recueils de textes, dont vous avez ici les références. Sur 10 ans de réédition, vous voyez qui surnage, il n'y a pas grand monde, et en tout cas, Park est au cœur. Donc, en 51-52, les débats du département portaient sur la création a posteriori d'une école de Chicago, dont les derniers restes étaient sur le point de disparaître. Et les survivants, c'est aussi Abbott qui fait cette remarque, en essayant de redéfinir le passé, le transforme à sujet moribond, en quelque sorte, en un objet vivant. Et c'est cet objet qui va se trouver disponible pour de nouveaux usages et que nous allons maintenant rapidement examiner. Parce que l'heureux événement de la première naissance, en quelque sorte, n'a pas fait l'objet de faire part, à part ces rééditions de Park, notamment. Il est resté très confidentiel. Il a fallu attendre une douzaine d'années pour qu'il fût porté à la connaissance du monde extérieur. C'est pourquoi on pourrait dire que l'année 1964 peut être retenue comme une deuxième naissance de l'école de Chicago. J'essaie d'aller très vite. La débandade, au cours de ces années 50, la débandade des qualitativistes est complète. Ils quittent tous le département. Je vous épargne l'énumération, mais la plupart des personnes qui sont sur la carte vers le bas sont en train de partir ou sont parties. Et en 59, Wright Mills, par exemple, pouvait décrire les deux pôles de la sociologie nord-américaine comme la grande théorie d'un côté, l'empirisme abstrait de l'autre, Harvard, Columbia, Parsons, Lazarsfeld. Et dans cet espace, Chicago n'existait tout simplement pas. Et c'est Maurice Janowitz, qui est un PhD de 48, qui est parti pour Michigan et qui est revenu en 62, et qui est chairman du département de 67 à 72, qui conduit la contre-offensive, en quelque sorte, hein, qui fait naître une seconde fois l'école de Chicago. Et cette seconde naissance a pour moyen essentiel une entreprise éditoriale qui commença en 64 et qui dura une dizaine d'années. Alors, le premier acte de l'offensive, c'est la mobilisation de Burgess, du vieux Burgess. Il est à la retraite depuis 12 ans, il a 78 ans, et il publie, en collaboration avec un jeune collègue, un ouvrage de 673 pages intitulé « Contributions to Urban Sociology », où étaient réunis des textes d'une quarantaine d'auteurs, dont la plupart avaient travaillé autour de lui et de Park dans les années 20 et 30, mais qui comprenaient aussi la génération présente. Et Burgess notait dans l'introduction « In the 1960s, urban research is big business ». Et c'était donc précisément l'époque à la fois du triomphe du planning, du côté de l'urbanisme, des émeutes dans les ghettos qui ont été, comme vous le savez, définis comme des problèmes urbains. Et c'est l'époque de la guerre contre la pauvreté, etc. Et c'est la dimension urbaine, disons, qui est l'une des deux orientations majeures de la reconstruction opérée par Janowitz. Chicago a été le haut lieu des études urbaines. Alors, l'autre orientation de Janowitz fut l'élargissement considérable des références mobilisées. Et en 64, il lance sa collection The Heritage of Sociology, avec un rythme de publication extrêmement rapide. Voilà. Et voilà que commence, à partir de 64, les rééditions des auteurs de la dite école, qui n'étaient pas disponibles dans les librairies au début des années 60, qui, par parenthèse, pour la plupart d'entre eux, ne le sont plus aujourd'hui aux États-Unis. Bon, on trouve tout sous Amazon, mais on ne trouve pas tout dans les librairies universitaires. Le rythme de publication, de republication est intense jusqu'à 73. Il se ralentit ensuite et on a 21 rééditions d'auteurs de l'école de Chicago. 4, ce sont des études qui portent sur celle-ci et 17 seulement qui concernent dans cette collection d'autres sociologues. Vous avez un aperçu ici du catalogue complet de Heritage of Sociology, avec des textes choisis de Meade. Alors, vous voyez l'éclectisme des références. Meade, Worth, Ogburn, le statisticien, Thomas, Park, Thomas est pardonné. Mackenzie Frazier, l'élève afro-américain de Park. Zianecki, du paysan polonais. Burgess, Sutherland, le monsieur qui s'occupe des crimes, et notamment du crime en col blanc. Voilà. Et puis il y a un ouvrage en 71 qui publie, qui s'appelle The Social Fabric of the Metropolis, et qui place un ensemble de d'auteurs sous l'étiquette The Chicago School of Urban Sociology. Bon, on réédite The City, le livre manifeste de 25, etc., etc. Donc, cette avalanche éditoriale est absolument cruciale dans la deuxième naissance de l'école de Chicago. D'abord, elle fournit la preuve que l'école avait bien existé. Regardez, elle est sur le rayon de la bibliothèque. Elle fixe aussi des contours, tracés très, très largement, avec un éventail d'auteurs et de thèmes ouvert et sélectif à la fois. Et vous avez ici le paysage créé par Janowitz dans les années 60, début des années 60 et 70, par ses rééditions. Vous voyez aussi que la dernière génération retracée sur ce tableau sert de préfacière à la première et à la seconde. Donc, les plus jeunes sont mobilisés pour recruter les auteurs plus anciens dans l'école. Heureuse conclusion tirée dès 68 par Janowitz à cette entreprise. À la fin des années 50, il serait apparu à un historien intellectuel que The Chicago School of Urban Sociology était épuisé. Les anciennes figures et les anciens personnages avaient disparu. Un par un, une nouvelle génération de sociologues était intéressée dans la méthodologie quantitative et dans la théorie systématique. C'est toujours les deux pôles qui sont la terreur, évidemment, des gens de Chicago. Et à peine une décennie plus tard, les thèmes d'une Reconstructed Urban Sociology sont à nouveau au centre du Social Science Thinking. Ça y est, l'opération est réussie. En tout cas aux yeux de son promoteur. Alors c'est à ce moment-là que le marquage urbain de l'école de Chicago fut promu, utilisé par de nombreux sociologues qui voulaient prendre pied dans le domaine, disons, sur des bases intellectuelles qui s'écartent de l'écologie humaine modélisatrice ou de l'étude des urban areas qui a fleuri tout au long des années 60, et notamment à Michigan. C'est le cas, par exemple, de Richard Sennett, qui n'est pas de Chicago, mais qui fait un montage très curieux en 69, montage qui aura un grand succès, notamment chez nous, montage entre la Chicago School, Park, Worth, Redfield, l'anthropologue, et la German School, Weber, Zimmel, Spengler. Voilà, ça c'est une autre construction qui aura un certain, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais qui aura aussi un certain succès. Donc au fond, pour comprendre le moment en quelque sorte Janowitz, c'est tout à fait crucial, en tout cas pour nous c'est important, parce que c'est une lecture française très fréquente, pour fabriquer Chicago comme une école de sociologie urbaine. Alors, oh là là, le temps passe. Pendant que Janowitz faisait cette opération, éclectisme des inspirations, modernité méthodologique, investissement dans les études urbaines, il y a une autre opération qui commence à prendre forme, c'est l'affirmation d'une Second Chicago School, une seconde école de Chicago, dont la bannière était la sociologie qualitative et plus précisément l'interactionnisme symbolique. Alors, pour parler d'une seconde école de Chicago, il fallait qu'il y en ait eu une première. Et il fallait que cette première annonce la seconde. Il fallait donc reconfigurer la première. Voilà la troisième naissance de l'école de Chicago. C'est une partie des anciens étudiants des années 46-60, disons, ceux qui suivaient alors Bloomer, Hughes, Warner, Redfield, et qui restèrent fidèles à ces inspirations, malgré les vents contraires qui soufflaient dans la sociologie nord-américaine. Alors, quand est-ce que ces hommes conçurent-ils qu'ils constituaient une seconde école, et en quoi consistait-elle au juste cette école ? Gusfield, qui est vraiment un interactionniste conséquent, qui à ce moment-là est professeur à San Diego, répond « Une école, c'est une cohorte de gens, plus une étiquette, un label. » Ce qui est une définition qui n'est pas plus mal qu'une autre. C'est une construction sociale utilisée, je cite, « à des fins politiques locales. » Voilà. Donc, la seconde école de Chicago est construite par des gens qui lui succèdent, de la génération d'après encore. Et notamment organisée dans un colloque par Gary Fine. C'est un colloque de 1990 qui est publié en 1995 avec un ouvrage collectif, A Second Chicago School, point d'interrogation. Donc, que je me fasse bien comprendre, des plus jeunes réunissent autour de l'étiquette Seconde École de Chicago, leurs maîtres, qui sont les gens formés, où sont-ils, dans cette génération-là, mais pas tous, Hughes, où sont-ils, Goffman, Gusfield, Becker, bien sûr, etc., Anselm Strauss. Donc, ces plus jeunes réunissent, comme une seconde école de Chicago, leurs maîtres, et ont besoin d'une première qu'ils vont redéfinir. Donc je fais ça au pas de charge. En gros, les choses commencent au moment où, enfin, cette opération, cette troisième naissance commence à se dessiner au moment où la discussion sur Meade et les rééditions de Meade commencent, c'est-à-dire à la fin des années 60, avec une accélération considérable au cours des années 70 et des années 80. Ma source s'arrête en 83. Je ne suis pas allé plus loin dans l'histogramme, mais on aurait pu continuer. Les publications sur Meade ne cessent de se multiplier. Donc, il y a une controverse sur les appropriations de Meade, mais cette controverse précède de peu le bond en avant des publications qui comportent, dans leur titre, Symbolic Interactionism, interactionnisme symbolique. Voilà. Donc, Meade va être recruté sous la bannière de l'interactionnisme symbolique, et c'est là où le fameux Bloomer joue son rôle, voilà, puisque... C'est assez largement, disons, c'est lui qui lance l'étiquette et qui s'efforce par la suite de se l'approprier. J'essaye de résumer beaucoup. Alors, ce qui nous importe dans ce dernier temps, disons, de ce rapide exposé, c'est que c'est stabilisé sous l'étiquette interactionnisme symbolique quelque chose qui est de plus en plus systématiquement identifié, disons, à la Chicago Tradition ou, plus souvent encore, la Chicago School. Et au travers donc de ces débats sur le rôle de Meade, sur la paternité de l'interactionnisme symbolique et sur ses annonciateurs à Chicago, c'est une nouvelle école de Chicago qui prend forme, qui n'est pas celle de 51-52, pivotant autour de Park et de Thomas, qui n'est pas celle de Janowitz, dont j'ai assez longuement parlé, qui est une école dont l'affiliation, alors c'est ce que j'ai mis en vert sur ma carte, dont l'affiliation commence avec Dewey, avec Meade. Park et Thomas sont recrutés dans cette et Faris aussi, ce qui peut-être a plus de sens encore, sont recrutés dans cette tradition. Et puis ensuite, bien sûr, ceux qui venaient d'être construits comme la seconde école de Chicago à partir de Strauss vers le bas. Voilà. Donc, pour tenter de rendre clair mon propos qui est bien confus, cette carte est une sorte de résumé de ce que je viens de vous raconter. C'est ma carte d'origine qui montre en rouge l'école de Chicago telle que Janowitz l'a définie. On commence très tôt, small, on pivote autour de Park et de Burgess, et puis on y met tous leurs héritiers du côté de la sociologie urbaine, du côté de la criminologie et du côté d'une écologie humaine formalisée. Ça, c'est les gens qui sont en rouge ou en bleu, puisque le bleu, c'est la superposition des deux définitions. Du côté du vert et du bleu, par conséquent, c'est l'autre école de Chicago, celle que définissent les créateurs de l'interactionnisme symbolique. Alors, compte tenu du fait que cette seconde opération a connu un très grand succès aux États-Unis, il ne faut pas trop s'étonner que désormais, la plupart des titres de la collection de Janowicz Heritage of Sociology ne sont plus disponibles en librairie aujourd'hui. Puisqu'au fond, cette modalité d'affirmation de la dite école fut un phénomène nettement délimité dans le temps, mais il a eu des effets considérables, et en particulier à l'extérieur des frontières américaines. Alors, quelques commentaires pour conclure sur la réception française, disons, ou plutôt sur nos constructions locales de l'objet. La première observation serait que l'importance accordée à l'école de Chicago en France depuis les années 80 est sans commune mesure avec ce qu'on observe aux États-Unis et notamment chez les sociologues. Nous consacrons un sujet des colloques, des exposés comme celui-ci, des traductions, des livres, il y a même un que sais-je, 1992. Un intérêt comparable, me semble-t-il, est accordé à cette tradition au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, au Brésil, par exemple. Alors, ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est que la Manufacturing Chicago Industry s'est délocalisée en dehors du territoire des États-Unis. Elle s'est très diversifiée, et, selon qu'elle concerne la sociologie, la philosophie, les études urbaines, y compris l'architecture. Peut-être on pourrait avancer l'hypothèse que la fascination pour Chicago est aujourd'hui une des principales modalités de la revendication des sociologues des pays linguistiquement dominés, dont ceux dont les pays francophones bien sûr, revendication de participer à une discussion scientifique mondiale en quelque sorte. Hein. Puisqu'on parle de Chicago, c'est qu'on parle de choses importantes puisqu'elles sont américaines. Mais comme d'ordinaire, les provinciales se tombent toujours sur le genre de chapeau que l'on porte à Paris. Deuxième observation, les définitions françaises de l'objet se calquent sur des définitions préalablement produites aux États-Unis. Ça, je crois que c'est tout à fait intéressant et important. Et c'est principalement le Chicago des études urbaines, donc celui de Janowicz et de Burgess, dernière manière, que Graffmeyer et Joseph ont importé en 79. Et c'est devenu une évidence dans tout ce qui touche aux choses de la vie dans notre pays, disons, que l'école de Chicago est une affaire de sociologie urbaine, n'est-ce pas ? Et pourtant, à partir des initiatives de Bourdieu, 68, les premières traductions de Goffman, puis de Becker, promu chez nous par Chapouly, par parenthèse, le livre splendide, la tradition sociologique de Chicago, c'est la meilleure chose produite sur le sujet en français à mes yeux, c'est un excellent ouvrage, qui par parenthèse ne mentionne à aucun moment que l'école de Chicago concerne les choses de la ville. Fascinant. Donc, parce que justement, Chapouly s'intéresse à Hughes, s'intéresse à l'interactionnisme, et c'est ça l'école qu'il entend faire venir chez nous. Elisabeth Bassinger, qui traduit Strauss en 92, Chapouly, qui traduit Hughes en 96, etc. Donc, on a aujourd'hui, selon le public auquel on s'adresse, et aujourd'hui, je ne sais pas très très bien à cet égard à qui je parle, on a au moins deux définitions qui coexistent sans à peu près jamais se confronter. On croit qu'on parle de la même chose et très très fréquemment, justement, on parle de choses différentes. Voilà. Donc j'ai terminé. Il me semble que, bon, parmi tous les cas passionnants qu'on a abordés au cours de cette première journée de colloque, elle n'est pas finie, on a là un cas assez particulier où, en gros, comme disait Gary Fine, vous savez, celui de 95, et auparavant Ellen McGill Hughes, là, l'épouse de Everett Hughes, nous sommes perchés sur les épaules de géants. Voilà. Ça, c'est une modalité assez spécifique de construction des écoles. C'est de restructurer le passé pour donner une intelligibilité au présent qui légitime, en quelque sorte, une position dans ce présent à partir des filiations qu'elle prétend avoir. Voilà. Donc, c'est une modalité parmi d'autres. Mais je crois que ce cas est assez caractéristique de au moins cette façon de faire école.
Voilà. merci beaucoup pour cet exposé un peu raccourci, mais passionnant sur des histoires de d'étiquetage, de reconstruction et de redéfinition. En gros, il nous reste un petit quart d'heure avant que votre taxi arrive.
Il y a taxi.
En électricité, soit vous prenez le train suivant.
Non. Réservé, s'il vous plaît. Merci.
Bon, on va faire taxi.
Pour la demi. La demi, c'est bon. Comme ça nous laisse du temps.
Non, donc, un petit quart d'heure de...
J'ai deux toutes petites questions. La première, c'était dans la deuxième naissance, Janowitz, on trouve Schütz, traduit par Helmut Wagner,
oui.
Phénoménologie of the Social World. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait les gens, ils m'ont piqué dans l'histoire de quelqu'un, donc c'était la première question. Et la deuxième question, c'est la question de Goffman, qui ne voulait absolument pas. Il y a un entretien avec Iwinkin où il traite de beaucoup de choses d'ailleurs, et dit je ne suis pas symbolique interactionniste, ça n'existe pas, c'est des gens comme vous qui veulent classer des gens, etc. Donc c'était les deux questions, on a deux impairs, quoi, deux étrangers, un étranger dans la deuxième école et un qui devrait être dedans dans le troisième, oui. qui dit qu'il est dehors et l'inverse dans
les... Alors, disons, les tensions internes à ce qui pourrait être regroupé autour d'interactionnisme symbolique sont d'une grande, grande complexité. Je ne suis pas du tout le plus compétent pour en parler, loin de là. Mais ça sortait un petit peu de mon propos, puisque ce qui m'intéressait, c'était la façon dont une partie, en tout cas, de ces militants de cet étiquetage s'est emparée du passé. Plutôt que, enfin, mon propos n'était pas tellement de voir comment, entre eux, ils se distinguaient. Voilà. Mais en effet, Goffman, enfin, je veux dire, la pertinence, d'une part, de l'étiquetage et la propriété de l'étiquetage, c'est-à-dire qui peut s'en prévaloir, sont évidemment, dans ce cas comme dans tous les cas, un objet de conflit majeur et donc une sorte de révélateur, je crois, des topographies scientifiques et intellectuelles. Donc vous avez absolument raison d'insister sur le fait que Goffman ne veut pas être recruté, mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas être recruté qu'on n'est pas recruté, justement.
Hein,
voilà. Hein, c'est, voilà, une œuvre est toujours à la disposition des violences que ses lecteurs lui pratiqueront sur elle, et je crois que personne n'a le droit de se plaindre véritablement de ça, bien qu'on puisse avoir une opinion. Alors, quant à Schütz, ce qui est tout à fait... Schütz et Janowitz, bizarre quand même, hein, bizarre. L'éclectisme de Janowitz était absolument superbe. C'est-à-dire qu'il avait au cœur de The Heritage of Sociology, que vous avez sous les yeux ici, il y a effectivement l'école de Chicago, mais il brasse très très large. Hein, il brasse très très large. Il va aller chercher Edward Shields, par exemple, qui a vraiment, à part un petit passage à Chicago pendant un an ou deux, pas grand-chose à voir avec tout ça. Mais il va aussi recruter des gens qui vont parler de l'école. Ça, c'est vers la fin de la période. Martin Bulmer, qui est un Britannique, va écrire la deuxième histoire autorisée, en quelque sorte, de l'école de Chicago. Et puis Lester Kurtz, qui a fait la bibliographie, qui m'a servi à travailler, voyez-vous. Bon, ça, c'est des gens qui viennent, en quelque sorte, boucler la boucle. C'est Borges, c'est le catalogue des catalogues, hein, qui rentre dans le catalogue. Et puis il y a aussi, mais ça c'est pas dans The Heritage of Sociology, mais c'est contemporain, The Free Press of Glencoe est assez lié comme éditeur à toute cette petite bande, il y a le recrutement, de notre cher Maurice Halbwachs, sans parler de Charles Booth, que je pense vous ne connaissez pas trop, mais qui est un Britannique important, et qui va évidemment apparaître comme un des ancêtres européens de l'écologie humaine, et aussi Halbwachs avec sa morphologie sociale. Donc vous voyez que Janowitz a cette intelligence de brasser large pour, y compris, envoyer des pseudopodes vers un passé européen.
Par les autres universités. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Est-ce que ça a été éventuellement en critiquer, dénoncer? Ça, c'était ma première question. Et puis, ma deuxième question, c'est tu as parlé d'avalanche éditoriale. Donc, effectivement, donc ça suppose un soutien fort de lieux d'édition. Est-ce que ça veut dire que l'université était derrière ce recyclage complètement et l'a appuyé en rééditant en masse des textes pour nous faire croire à l'école de Chicago?
Faire croire ou la faire exister. Alors Antoine, sur le deuxième point, à vrai dire sur les deux points, je vais avouer mon ignorance. Le second point impliquerait des archives, hein, pour voir comment la décision chemine au sein. Il s'agit bien sûr de University of Chicago Press, donc c'est véritablement la puissance éditoriale de l'université qui est mobilisée. Selon quel processus de décision, malheureusement, je n'ai pas fait enquête sur ce point. Le simple fait, disons, de la multiplication des titres est un indice, malgré tout, que l'appui là est fort. Plus fort que, juste une anecdote pour l'année 1925 que je connais un petit peu mieux que tout ça, vous savez, The City, le livre collectif avec le livre programme, en quelque sorte, le livre phare de Park et Burgess, a été publié à compte d'auteur. Et ils ont bien failli ne pas rentrer dans leurs frais du tout. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas d'appui du tout de l'université au département. Là, à l'époque de Janowitz, bien plus tard, 40 ans plus tard, elle est là. Comment est-ce que cette opération est perçue? Là encore, je dois avouer, par exemple, que je n'ai pas fait le travail sur vous savez, la fortune critique de tous ces ouvrages. C'est un gros travail dans lequel je ne me suis pas engagé. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que simultanément, les deux grands adversaires font une opération semblable. Parsons raconte une histoire de la sociologie universelle où il recrute Weber, Durkheim, voilà. Et puis Lazar Svend fait aussi une histoire de la sociologie universelle comme étant une histoire de la sociologie empirique, et il envoie l'article de Michel Pollack sur l'international. Lazar Svend est un peu polémique, mais certainement très fondé empiriquement. Il envoie en quelque sorte des commandos pour fabriquer en France l'histoire des enquêtes sociales, en Grande-Bretagne l'histoire d'une sociologie britannique qui soit aussi une histoire des enquêtes sociales, en Allemagne même chose. Donc on a Lazar Svend écrit un rapport de conjoncture pour l'UNESCO sur les sciences sociales, qui est une reconstruction complète de la description de la discipline. Donc je ne sais pas comment les adversaires, en quelque sorte, ont reçu l'opération. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'ils étaient en train d'en conduire une parallèle, et divergente, bien entendu.
Il y a deux très courtes anecdotes ou des questions. L'anecdote, la première, j'ai le sentiment que dans l'article d'Herbert Blumer à propos de l'interactionnisme symbolique, quand on lit son article, on est frappé par le côté anti-durkheimien. Il dit que les vieux concepts qu'il faut évacuer pour construire l'interactionnisme symbolique, c'est tous les concepts que disent les durkheimiens, en fait. Il les liste, c'est tout à fait frappant. Donc je me demande si tous ceux qui adhèrent à l'interactionnisme symbolique dans la liste, à la Blumer, ne sont pas des anti-durkheimiens. Bon, ça c'est ma première anecdote, mais c'est pas vraiment ma question, même si c'est une question. L'anecdote, c'est que en visitant l'Université de Chicago, très jolie d'ailleurs, au plan architectural, j'ai été frappé en allant au département des sciences sociales de voir que de tous ces noms, je n'ai vu que, enfin, de mémoire, hein, je me trompe peut-être, mais que Redfield. Je m'attendais à voir beaucoup d'autres sociologues, et je me demande si, de l'école de Chicago, entre guillemets, et je me demande s'il n'y avait pas une espèce de clivage entre ceux qui faisaient des enquêtes.